Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 5 juillet 1991.
D'avoir des modalités différentes. Mais plan philosophique, ce sont les expressions d'Aristote. Faut bien vous montrer que la philosophie chez Aristote n'est pas du tout commandée par la foi. Mais si je disais ça, diront ce pas étonnant, il croit. Et pourtant, je peux le dire en toute vérité au plan purement philosophique. Dieu nécessairement se contemple et s'aime. Nécessairement. Ça, c'est l'intelligence qui dit ça. Alors, vous allez tout de suite comprendre la lecture du réfectoire de Smith qui vous mettait justement dans cette orientation. Mais c'était fait par Épictète, pas tout à fait Aristote. Alors Épictète n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'Épictète ne va jamais jusqu'au bout. Il dit des choses extrêmement intéressantes dans l'ordre de la disposition. Mais il ne touche pas les principes. Parce qu'il est stoïcien. Alors il n'y arrive pas. Il y a tout un contexte volontaire. Ça se sent. Il y a un volontarisme extraordinaire dans Épictète. C'est un homme qui ne doit pas être commode du tout. Tandis que saint Thomas, lui, a un autre regard. Et Aristote aussi. Alors, ce qu'on connaît détermine mon intelligence. Les réalités limitées, je les connais en les analysant. Parce qu'elles impliquent une potentialité. Et impliquant une potentialité, je peux les analyser. Analyser, c'est diviser. qu'il est le seul à se contempler parfaitement jusqu'au bout. Se contemple lui-même. Et en se contemplant, il connaît tout ce qu'il peut créer. Et en se contemplant, il connaît ceux qu'il a créés. Il aurait pu réaliser un monde plus parfait qu'il n'a fait. Il aurait pu. Le monde que nous voyons n'est pas le monde le plus parfait que Dieu aurait pu faire. et ils s'aiment. Se regarder dans la glace, ce n'est pas une perfection. Parce qu'on n'est pas la perfection. Donc ce n'est pas une perfection. Tandis que comme Dieu est parfait, quand il se contemple, c'est parfait. Il n'y a rien de plus. Il ne peut pas contempler une créature. Il ne peut pas contempler un être plus parfait que lui. Donc se contempler, c'est la chose la plus grande qui soit, la plus parfaite qui soit. Et s'aimer montre aussi ce qu'il y a de plus aimable.
Depuis
c'est toujours très difficile à discerner est-ce que ça vient bien de Dieu ou de l'Esprit Saint. Dans l'ordre pratique, on ne peut jamais savoir avec certitude que notre jugement est nécessairement le meilleur. Tandis que si j'obéis à l'autorité, je sais. C'est ça que je dois faire. C'est là la grandeur de l'autorité, oui. Je n'ai pas parlé ce matin au point de vue de l'éthique religieuse, de l'obéissance. C'est pour ça que c'est bien d'en dire un mot maintenant, vous voyez. Parce que c'est vrai, je crois que la vertu d'obéissance n'apparaît qu'en éthique religieuse. Alors elle reprendra une force énorme en éthique chrétienne, mais déjà en éthique religieuse. Parce qu'au fond, l'autorité, je ne parle pas du pouvoir, l'autorité apparaît avec le Dieu créateur. Est-ce qu'avant d'avoir découvert le Dieu créateur, puis-je parler encore d'autorité? Vous voyez, en laïcité, dans une éthique purement laïque, digne, qui repose sur l'amour d'amitié, parler d'autorité, je crois pas. Je peux parler de compétences. Il y a des gens qui acceptent les compétences et qui n'obéissent jamais. C'est pas la même chose. Il y a une certaine autorité de compétence. Vous voyez, quelqu'un qui connaît parfaitement sa matière en tant que professeur, mais on acceptera ce qu'il dit, même si on comprend pas tout le temps. C'est une autorité de compétence. L'autorité religieuse est une autorité mandatée par Dieu. C'est pas la même chose. Et c'est toujours important de voir la différence entre les deux. Avec le point de vue du Créateur, apparaît le point de vue de l'autorité. Peut-être, je dis dans l'éthique purement humaine, fondamentalement humaine, basée sur l'amour d'amitié. Peut-être que, en regardant la famille, je peux dire que l'enfant doit obéir. Aristote disait, dans son éthique à lui, que l'obéissance, c'était bon pour les enfants, et je m'excuse de le dire, pour les femmes. Mais ça, c'est la conception qu'Aristote avait. Hein. C'était un peu mieux que Platon. Hein. Aristote a un regard sur la femme beaucoup plus grand que Platon, parce que pour Platon, entre l'homme et la femme, il ne pouvait pas y avoir d'amitié. Tandis qu'Aristote lui dit qu'il y a une amitié véritable entre l'homme et la femme. Et pour lui, tout le mariage, toute la famille se fonde sur cette amitié. Tandis que pas Platon. Platon, non. Vous voyez, donc il y a un progrès. Et c'est très beau de voir ça, du reste. Il y a un progrès. Et le progrès définitif, ce sera la vie chrétienne. À cause de Marie. Et grâce à Marie. Montre la femme qui est la créature la plus parfaite qui soit. Donc à ce moment-là, on voit la dignité de la femme dans le christianisme. Parce que, au point de vue philosophique, je crois qu'avant le christianisme, c'est Aristote qui était le plus loin, reconnaissant une véritable amitié entre l'homme et la femme, reconnaissant une coopération entre les deux. Dans l'ordre de l'éducation. Et dans l'ordre de l'amitié entre l'époux et l'épouse. Une question très délicate. Hein. Très délicate. Est-ce que l'amitié implique nécessairement l'autorité? Je dirais non. Entre l'époux et l'épouse, au plan pur. philosophique. Je ne crois pas qu'il y ait d'autorité. La véritable autorité qui existe entre l'époux et l'épouse, c'est l'autorité que l'homme donne à l'épouse et l'autorité que l'épouse donne à l'homme. Dans un foyer où on s'entend parfaitement, c'est comme ça que ça devrait exister. Dans ce domaine, c'est toi qui commanderas, parce que tu es bien plus calé que moi. Mais dans cet autre domaine, c'est toi qui commanderas, parce que tu connais beaucoup mieux. Vous voyez, on reconnaît les compétences de l'un et de l'autre. C'est le sacrement de mariage. C'est très curieux, hein, qui apporte alors une certaine autorité à l'homme. Mais c'est une autorité surnaturelle. Et au point de vue naturel, il faut que l'époux et l'épouse reconnaissent leurs compétences réciproques. Je crois ça très important aujourd'hui de comprendre cela. Et les revendications de la femme viennent parce que très souvent, en fonction de traditions, de coutumes, d'habitudes, on dit que l'homme a autorité naturelle. C'est pas tout à fait juste. Entre deux amis, il n'y a pas d'autorité. Si ce n'est l'autorité que l'ami reconnaît à l'autre, autrement, il n'y a pas d'autorité. Il y a un droit naturel d'amitié. C'est pour ça que c'est une question extrêmement importante, où à quel moment l'autorité apparaît. Je crois que c'est dans le mariage, l'autorité apparaît. Les parents à l'égard des enfants. Alors là, il y a une autorité. Parce que vous êtes en présence d'êtres qui ont une compétence plus grande, vu leur âge. Et un amour aussi. Donc il y a compétence et amour, et cela permet de comprendre comment il y a l'autorité des parents à l'égard des enfants. Une autorité qui est limitée, parce que quand les enfants ont grandi, les parents n'ont plus qu'un droit de conseil. C'est au concile de Trente où il y a eu un conflit fort entre les théologiens français gallicans et les théologiens espagnols